J'aimerais bien que vous me parliez de cette
Mais est-ce que
chanson.
vous avez envie que tous vos ex, ils vous disent « je suis là »
Pas tous. Pas tous.
Isabelle Gianni reçoit Louis Chédid, légende de la chanson française.
Bonjour Louis Chédid.
Bonjour.
On est heureux de partager ce moment avec vous.
Moi aussi.
L'album est sorti, ça y est.
Ouais.
Nous, on l'écoute en boucle à M Radio. Déjà, Je suis là, qui était sorti début septembre, on l'écoutait en boucle.
C'est merveilleux.
Ben, c'est un album qui est écrit, je trouve, avec le cœur.
Ben oui, avec... ben, oh, tous les enfin, j'imagine que tous les artistes écrivent avec leur cœur. Mais c'est vrai que moi, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que quand on me dit justement que ça fait du bien et que... J'aime bien l'idée d'écrire des chansons qui tirent les gens vers le haut plutôt que de les tirer vers le bas, vous voyez. Donc oui. J'entends beaucoup ça depuis quelques temps avec ce disque et ça me fait très plaisir.
Mais oui, parce qu'on a l'impression que vous avez les bras grands ouverts, en fait.
Ouais, ouais.
Et on le reçoit comme ça. Et voilà, on a l'impression que ces mélodies, elles nous portent. Et alors le titre est très joli, « Rêveur, rêveur ».
Oui. Ouais.
Et je me suis posé la question, pourquoi deux fois rêveur? Pourquoi pas juste rêveur?
Oui, alors c'est une bonne question. Et la réponse est la suivante. C'est qu'il y a une chanson dans le disque qui s'appelle Rêveur, rêveur, et qui fait rêveur, rêveur. Ouais.
Ouais.
Donc c'est pour ça. Et puis comme ça, ça enfonce le clou.
Et, deux fois plus rêveur.
Ouais, voilà, deux fois plus rêveur.
En fait, on a la mélodie dans le titre. Rêveur, rêveur.
Voilà, exactement.
C'est ouais, ouais, c'est beau. Ouais. Alors, non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je suis fan, hein, je vais pas le cacher.
Bon, et alors... le cachez pas, c'est parfait.
J'ai un petit garçon qui est au collège.
Oui.
Et sa prof m'a dit, mais votre fils, il est rêveur. Et sa maman, ça m'a laissé sans voix. Alors, qu'est-ce que vous auriez
et
dit,
elle,
vous?
Elle disait ça comme c'était un reproche.
C'est un problème.
Oui, oui, oui.
C'est un
mais
problème.
Moi, quand j'étais à l'école aussi... Hein, j'avais des carnets de notes où il y avait marqué n'est pas avec nous dans la classe, il rêve toute la journée, etc. Et c'est sûr que quand vous êtes là pour apprendre la géo, l'histoire, toutes ces matières, et que vous êtes autre part tout le temps et que le prof voit que vous êtes ailleurs... Moi, je trouve que c'est une qualité que l'imagination s'en aille à droite, à gauche et elle aille imaginer des choses.
Mmh.
Mais c'est sûr que ce n'est pas scolaire, quoi.
C'est pas voilà. Du tout scolaire. Il y a quelque chose de très joli, c'est dans Rêveur, Rêveur, je crois que vous dites que le tableau noir se transforme en écran de cinéma.
Oui, c'est ça, voilà.
J'ai ouais. trouvé l'image
ouais, ouais.
très
je
belle.
Dis,
et très
j'ai
juste.
Toujours aimé la place du radiateur. Mais c'est ouais. vrai, moi j'ai une scolarité un peu chaotique, dirons-nous. Donc ma façon de partir, c'était justement d'imaginer des trucs, de me voir plus grand, d'imaginer que je ferais telle chose ou telle chose.
Et déjà chanteur ou pas, dans cette petite tête
quand
d'enfant?
J'étais petit, non.
Non.
Non. Mais j'ai su assez vite que je voulais être artiste. Mais pour moi, artiste, ça voulait dire... Enfin, c'est pas que je voulais être artiste, je voulais être libre, quoi. Je voulais plus du tout être obligé d'aller dans un endroit, à l'école, par exemple, étudier des choses qui m'intéressaient pas, où j'avais pas envie, et voilà. Et je me disais, quand je serai grand, je ferai exactement ce que je veux.
Et un jour, vous avez trouvé une guitare dans une cave.
Exactement.
Là, vous aviez 12 ans.
Ouais.
J'aimerais bien que vous me racontiez un peu cette guitare.
Ben, c'était mon père qui avait acheté une guitare et qui, parce que mon père était un homme curieux et il était scientifique, donc pas du tout là-dedans et il n'avait pas du tout l'oreille musicale. Mais il s'était acheté une guitare en se disant, tiens, je vais voir ce que ça fait d'avoir une guitare. Et il avait essayé de jouer un petit peu une semaine et puis c'était vraiment
pas
pour lui.
Ouais, c'était pour
et
vous
donc,
du
il
coup.
Avait, ouais, c'était pour moi en fait. Et il l'avait mis dans la cave et un jour, je ne sais plus pourquoi, je suis descendu dans cette cave et j'ai vu sur une armoire comme ça, cette guitare qui était là toute seule depuis plusieurs années, hein, je pense. Pleine de poussière, il restait deux cordes, enfin vraiment... Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris et je l'ai remonté dans ma chambre et j'ai commencé à faire rien, quoi. Je veux dire, juste faire sonner une corde, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement, tellement harmonieux, tellement agréable. Et puis c'est vrai qu'aussi c'était les périodes absolument bénies de la pop musique qui démarrait de partout. Il y avait les Beatles, il y avait les Stones, il y avait tous ces... Enfin, et j'en passe, et des meilleurs, et qui sont toujours là aujourd'hui d'ailleurs, c'est ça qui est fou. Et donc la musique, les chanteurs, c'était anglo-saxon surtout, ça symbolisait un truc très très fort pour nous qui avions une génération de parents un peu plus traditionnels, disons, traditionnalistes, qui aimaient une forme de musique que nous on n'aimait pas trop. Et donc, la guitare plus l'écoute de tous ces nouveaux groupes et puis de les voir aussi à la télé, voir la tête qu'ils avaient, comment ils se comportaient, la liberté qu'ils avaient, etc. Ça donnait vraiment envie de faire ça.
Même avec deux cordes, quoi.
Même avec deux cordes, ouais.
Et après, vous êtes mis à faire des chansons comme ça de façon complètement, improvisée, instinctive, à l'ouïe.
Ouais,
pour Louis, c'est bien.
Oui, pas mal. complètement.
Avec l'oreille absolue. Enfin, la capacité.
Non, j'ai pas l'oreille absolue, parce que l'oreille absolue, c'est vous faites teinter un verre et il fait une note. Et quand vous avez l'oreille absolue, vous dites c'est un la ou c'est un si ou un truc comme ça.
Mais alors la capacité de refaire des mélodies qu'on a entendues.
Oui, une mémoire musicale, quoi. Ouais. Je veux dire que dès que j'entendais un truc, je pouvais le refaire tout de suite. Je pouvais le chanter. Hein, et j'ai appris la guitare comme ça. Il y avait un moniteur de colonie de vacances qui m'avait appris 3-4 accords.
Ok.
Et avec 3-4 accords, on fait mal toutes les chansons du monde. Mais on les fait mal, mais on les fait quand même.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment... comme ça que j'ai démarré, quoi. Mais je pensais pas tellement faire des chansons, hein. Moi, j'étais pas, je pensais pas, parce que en France à l'époque, on considérait un peu c'était la période yéyé, on l'appelait ça, et on considérait un peu la chanson française, tout ça, machin, comme, enfin, ça nous plaisait pas trop, quoi. Dans notre génération, on préférait les trucs anglo-saxons et tout ça.
Ouais.
Et donc, je m'imaginais pas du tout faire une carrière là-dedans. Et puis, il se fait que les hasards de la vie ont fait que tout d'un coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a emmené dans une maison de disques. J'avais fait des maquettes comme ça chez moi, mais vraiment en autodidacte et en amateur. Et cette personne de maison de disques a aimé, m'a fait enregistrer un premier album. Et puis là, j'ai découvert ce que c'était.
C'est fou.
J'ai adoré ça. J'adorais enregistrer dans un studio, travailler les sons, jouer avec des musiciens, des tas de choses comme ça.
C'est François Bernheim qui vous avait emmené là-dessus.
Ouais. Bravo.
Qu'il a découvert beaucoup de gens. François Bernheim, il était à l'époque directeur artistique chez Barclay.
Exactement.
Et il a mis vraiment beaucoup de gens quand même
voie. Et en plus, il avait le vent en poupe à l'époque, parce qu'il avait fait un groupe d'enfants comme ça qui s'appelait les Poppies. Je sais pas si on connaît maintenant, mais ça avait été des tubes énormes. Et donc vraiment, il était un peu l'enfant chéri de la maison de disques. Et il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et moi, je suis tombé à ce moment-là.
La chance.
Et donc, chance. Et il m'a fait faire un premier album, ce qui, à l'époque, était très rare, parce qu'en général, on faisait ce qu'on appelle des 45 tours, c'est-à-dire deux titres. Et puis, j'ai démarré comme ça. Et le premier disque n'a pas marché. Enfin, il a eu un succès d'estime, comme on dit. Mais
vous l'avez appelé Balbutiement.
Oui, exactement.
Je trouve que c'est drôle parce que c'est presque une façon d'avouer soi-même que c'est le début. Voilà.
Exactement.
Et d'assumer ce début.
Ce qui est un titre un peu modeste, mais de l'autre côté, c'est ce que je pensais. C'était le début, quoi. Et il n'y a pas un métier au monde où on est bon tout de suite, quoi. Il faut apprendre. Sauf dans ces métiers-là, les métiers publics, acteurs, les gens se disent, ils ont l'impression, quand vous commencez à avoir du succès, que vous venez de commencer, quoi. Et en général, vous avez déjà
avez
10 ans derrière vous et des trucs comme ça. Et puis voilà, j'ai fait ce premier disque. J'ai eu quelques réactions de personnes que j'estimais qui ont trouvé ça bien. Et puis moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable à faire.
C'était la liberté.
Ouais, c'était la liberté. Et puis c'était aussi le fait d'écrire, de composer, d'enregistrer, puis de mettre sa voix dessus. Et puis tout d'un coup, le disque est fait, l'objet, ça c'est quand même pas rien quand vous avez tout d'un coup l'objet de tout le travail que vous avez fait.
Bah oui, de tout ce ouais. que vous aviez imaginé.
Et puis ouais. un jour, ça passe à la radio.
Ça doit faire vraiment bizarre.
Ça c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Ouais. C'est exceptionnel, parce qu'on se demande même... quand ça passe à la radio et que vous vous y attendez pas du tout, des fois même vous dites c'est quoi ce truc là, ça me dit quelque chose.
Mais ouais. Peut-être vous avez une seconde lecture aussi.
Oui, bien sûr. Et puis aussi la réaction des gens, parce que quand les gens vous parlent de ce que vous avez fait et qu'on sent qu'il y a une émotion chez eux et que comment dire. Ça leur a fait, ça les a fait vibrer dans un sens ou dans un autre, émus, ça les a émus, ça leur a donné envie de bouger. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que les chansons, ça peut devenir vraiment des souvenirs très importants chez les gens.
Ça marque nos moments de vie.
Exactement.
Est-ce que vous avez une chanson comme ça qui vous a guéri, par exemple, de peine, de quelle qu'elle soit, des chansons qui font du bien? Ouais. Par exemple, moi, je suis là, elle me fait énormément de bien. Elle vient juste d'arriver, elle date du mois de septembre. Mais je trouve que dans ce texte, il y a les paroles qu'on aimerait entendre de la bouche de tous les ex qu'on a aimés, par exemple. qui nous diraient, mais je suis là. J'aimerais bien que vous me parliez de cette chanson.
Est-ce que vous avez envie que tous vos ex, ils vous disent, je suis là?
Pas tous. Pas tous.
Voilà, c'est ça. Mais non, mais il n'y a pas que les ex, quoi. Mais tant mieux, ça me fait très plaisir que vous disiez ça, parce qu'en fait, c'est une chanson un peu que tout le monde peut chanter, quoi.
C'est ça.
À quelqu'un d'autre.
Ouais.
Elle s'adresse à tous les gens qui me sont proches, mais aussi à c'est une façon aussi de dire, quand on a fait beaucoup de disques, etc., je suis là, quoi, les gars. Pas de problème, si jamais vous avez besoin de moi, je suis toujours là.
Voilà. Et il y a une chanson d'ailleurs, vous dites que vous serez là même après.
Ouais.
Ça s'appelle
Le train des nuages.
Le train des nuages. Elle m'a fait pleurer. Hein. Donc voilà. Mais c'est bien aussi les chansons.
Mais évidemment, c'est bien.
Et ce que je trouve trop beau dans celle-ci, c'est que vous dites que la petite ampoule qui va s'allumer dans le noir ou le parquet qui va être bavard, et ben ce sera vous.
Bah oui.
Ouais. Et est-ce que vous avez des...
Moi, j'y crois à ça.
Ouais.
Moi, je crois qu'il y a quelque chose après. Vous savez, il y a deux formules. Il y a des gens qui disent, mais t'es complètement débile. Il n'y a rien après. On n'est rien. On n'est plus rien, etc. Moi, je pense qu'il y a quelque chose après. Parce qu'il y a... Et de toute façon, à tout prendre, comme c'est 50-50, c'est soit la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, je préfère me dire qu'il y a un truc après, quoi. Je veux dire, personne ne sait, donc autant se dire...
Autant être optimiste. Et l'inspiration, alors, justement, comment vous faites pour trouver toutes ces mélodies? Comment on fait pour faire une chanson? Comment ça vient? Il y a une chanson qui s'appelle L'Inspiration dans l'album.
Absolument.
Et alors, j'aimerais bien que vous me parliez de cette chanson-là et de comment vous faites quand elle n'est pas là. Et quand elle est là, est-ce que...
Quand elle n'est pas là, on a un petit coup de déprime, parce que, je veux dire, on cherche, et puis on ne trouve rien. Ou on trouve un mot, une phrase, et puis ça ne va pas, la musique ne va pas bien avec. Enfin, et puis on tourne en rond, et puis tout d'un coup, paf, elle est là, et là, ça... Voilà, on passe par des états différents. C'est comme... Mais c'est intarissable, l'inspiration. Il faut savoir que ça se tarit parce que mentalement, des fois, on a des blocages ou des trucs comme ça. Mais sinon, c'est un puits sans fond.
C'est trop beau, en fait. C'est jamais fini. C'est jamais fini, l'inspiration.
Non, ça, c'est jamais fini. C'est vraiment... Il faut être en état de réception. Il faut se mettre à sa disposition. Parce que, je veux dire, si on est... Mais encore et encore, parce que les meilleurs textes, souvent, c'est en marchant, en se baladant, en étant en mouvement. On trouve beaucoup, beaucoup plus de choses que quand on reste...
Quand on est statique. Il y a la chanson « Quand on aime ». Avec des chœurs qui sont tellement beaux. J'adore les chœurs. Un peu à la Beatles.
Complètement.
Un petit peu, ouais.
Absolument.
Ouais. Ça m'a résonné.
Mais complètement.
C'est ce qui vous a bercé aussi petit, hein. Beatles.
Ouais. Et qui me berce toujours, d'ailleurs.
Je suis sûre que vous n'allez pas aimer cette question.
Oui, si, c'est pas grave.
Votre définition de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Parce que là, vous dites
c'est
quand
très,
on
très
aime.
C'est très large, l'amour.
Mais oui, alors, quand on aime, tous les jours de la semaine sont comme un dimanche.
Ouais. Bah ouais. Non, mais c'est vrai, non?
Bah oui, c'est vrai. Les aime les dimanches.
Exactement. C'est très difficile de répondre à ça parce que l'amour, c'est l'amour aussi des arbres, par exemple, quand on se balade en forêt, ou l'amour, vous parliez des papillons blancs. Je veux dire, c'est beau, ça vous crée une émotion. C'est tout ce qui vous crée des émotions, quoi. C'est-à-dire que alors, ça peut être évidemment l'amour pour des personnes. Pour des personnes en particulier, pour l'humanité en général. Partager des émotions. C'est tout ce que je pourrais dire vraiment d'à peu près pas trop merdique.
C'est pas du tout merdique. Est-ce que vous avez peur pour les gens que vous aimez? Est-ce que...
Oh ben oui.
Ouais.
Bah évidemment.
Et quand on devient papa aussi, ça c'est un sacré truc.
Vous connaissez ça?
Oui, j'ai trois enfants.
Bah oui, c'est ça, oui.
À partir du moment où ils sont là, c'est vrai que déjà on a un rapport à la mort qui est totalement différent. On y pense beaucoup, bizarrement. Moi, je sais qu'à la naissance de mon premier enfant, j'arrêtais pas de penser à la mort.
Mais c'est normal, parce qu'en fait, vous vous dites, si jamais je suis plus là, comment ils font, quoi.
Exactement.
Bah déjà, il y a ça. Puis on est pétochards... Mais il faut faire gaffe, parce qu'il ne faut pas l'être trop, parce que sinon, ils deviennent pétochards aussi.
On leur transmet. Pétochards, j'adore ce mot. donc, est-ce que vous étiez un papa poule quand vos enfants étaient petits?
Ouais, j'étais un papa poule. Ouais. Après, pas le genre comme aujourd'hui, où votre génération, elle est très... on n'engueule pas les enfants, on ne leur dit jamais...
Roi.
Oui, l'enfant roi. Alors, moi, je n'étais pas comme ça. J'ai jamais tapé mes enfants et tout ça, mais ce qui est normal. Mais disons que je mettais des limites, quoi. Mais papa poule, ça définitivement, oui.
En tout cas, ça les a mis sur chacun de très belles voix et ils sont tous très épanouis. Ouais. Et il y a une jolie chanson aussi, c'est « Quand je t'ai vue toute nue ». Est-ce que j'ai le droit de dire le secret de cette chanson?
Non,
d'accord.
Ah non.
Dommage.
Ah bah non.
C'est une merveille, c'est une pépite. Je dis rien parce que c'est vrai que ça va gâcher le plaisir.
Ce qui est génial, c'est que en fait, je sais même pas pourquoi tu me poses des questions parce que tu fais la pub du disque 10 fois mieux que moi.
Mais parce qu'on l'aime ce disque à la radio.
C'est merveilleux.
Je suis
tellement content.
Alors écoutez,
ça me fait un plaisir. Hein.
Vous qui écoutez ce podcast, l'album est sorti donc il y a 3-4 jours. Écoutez, quand je t'ai vue toute nue, parce que vraiment, il y a une
thriller,
très belle...
C'est un thriller.
Exactement. Voilà. Moi, je dis un thriller.
Mais... Ouais. Ah oui, oui. Moi, je
n'ai pas un très bon accent.
Ça fait toujours rire, d'ailleurs, mes enfants, quand je dis c'est un thriller.
Oui.
Et ça les fait rire. Mais
un thriller.
C'est un thriller, en fait.
Moi, je dis un thriller, mais ce n'est pas bon non plus. Oui. Normalement, on doit mettre la langue entre les dents. Un thriller.
Ce n'est pas évident à dire.
Louis, merci beaucoup pour ce moment que j'adore. C'était top.
C'était
un bon moment.
Très agréable.
Isabelle Jamy reçoit Louis Chédid, légende de la chanson française.